Juste une remarque. Je pense que vous avez tort de présenter les élèves de lycée professionnel comme un public spécifique. Je pense que cette façon de les distinguer, je me demande pourquoi ce ne serait pas les autres. Je veux dire, pourquoi ce ne serait pas les élèves de terminale S qui seraient un public spécifique?
Ah, mais ils le sont certainement aussi. Voilà. Mais c'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre la spécificité du rapport à l'écriture qu'ils ont, oui, de par l'environnement, qui est un environnement qui est différent de celui d'un collégien et différent de celui d'un lycéen général. Ça veut, spécifique, ça ne veut pas dire qu'ils sont à part ou qu'ils sont, je dirais, c'est pas qu'on les exclut d'une certaine norme. Hein, mais c'est que je pense que vraiment, les élèves de lycée professionnel ont un parcours qui est différent d'un élève qui est en lycée général, et ils ont des objectifs de formation qui sont différents. Et du coup, ça donne tout, c'est un contexte qu'il est nécessaire, je pense, de prendre en compte.
Oui, non, je l'entends bien. Hein,
voilà,
je
donc bien. Alors, mais c'était pas spécifique dans le sens, parce que peut-être que vous l'entendiez plus comme justement atypique. C'est spécifique parce qu'il a des spécificités. Et je pense que ces spécificités-là, en plus, pour que notre recherche, je pense que notre recherche doit vraiment être orientée sur justement ce que notre public, en tout cas, a de spécifique. C'est ça qui justement, on fera, qui pourra développer nos problématiques de façon plus intéressante.
Oui, non, je l'entends, mais moi, à votre place, j'éviterai le mot spécifique. Il faut trouver une autre manière de le dire. Il y a certainement une identité de l'élève de lycée professionnel qui est différente de celle de l'élève de lycée enseignant général. Mais en même temps, le mot spécifique, surtout, comme vous l'avez dit en début d'exposé, c'est pas qu'il stigmatise, c'est qu'il semble indiquer qu'avec ces élèves-là, il ne faut pas faire comme avec les autres. Bien sûr, mais avec les autres, il ne faut pas faire comme avec eux non plus.
Voilà, donc, bien sûr. Voilà. Oui, c'est tout à fait
réciproque. Il y a un peu la réversibilité de ce...
Mais en fait, je ne sais pas en fait, si votre remarque n'est pas justement... parce que justement, on a trop tendance à considérer de façon négative les spécificités des élèves en lycée professionnel. Est-ce que c'est... Parce qu'après, spécifique, mais je comprends aussi que peut-être le choix du terme ne convient
c'est
pas.
C'est qu'à l'inverse, si tu veux, quand je vois ce matin, par exemple, dans certains cahiers... Que Claire a fait circuler. Quand je vois par exemple la référence à d'élèves de CM, c'est peut-être pas ce matin, à Harry Potter par exemple, on a tendance à penser que c'est le modèle dominant, c'est standard. Et moi je suis persuadé qu'un gamin qui lit Harry Potter, c'est qu'un gamin qui est hyper dans les moules. Il y a aussi, voilà. Et donc du coup là, ma réaction quand je vois dans un cahier libre une référence à Harry Potter, c'est « Ouh, là, j'ai affaire à un public spécifique ». Voilà. Donc, le mot spécifique, je pense que... Oui, juste, je pense qu'il a intérêt... Enfin, vous avez intérêt à l'employer avec un minimum de précaution. Si vous l'employez, en tout cas, le compléter du propos que tu viens d'avoir pour expliciter,
voilà,
parce
vrai
que
pour nous, c'était pas disqualifiant. C'était juste qu'effectivement, il y a des éléments qui les différencient d'autres types de publics et qui sont pour nous à prendre en compte. Mais c'est vrai que c'était pas dans un... C'est pas une volonté de les disqualifier, effectivement.
Oui, d'abord, j'ai beaucoup aimé cet exposé. Et c'est vrai que la prise de conscience que finalement, ça a été dit juste à la fin, la relation entre part de l'écriture à l'école et part de... Enfin, dans l'institution scolaire et part de l'écriture à la maison ou personnelle, elle s'est inversée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore... Moi, la première, complètement intégrée. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant pour ça. Tout à l'heure, il y avait d'ailleurs un mois écrit MWA, par exemple, des choses comme ça. On voit ces contaminations. Enfin, c'est. Je voulais juste vous dire que, puisque vous avez dit il faudrait peut-être les regarder en salle informatique en train de chatter. Il y a aujourd'hui des logiciels en téléchargement gratuit ou achetables pas cher, peut-être un peu plus performants, qui sont des capteurs d'écran, qui permettent de regarder de manière transparente pour l'élève ce qui se passe. Alors c'est un peu difficile de faire ça, les élèves n'étant pas conscients, mais moi j'utilise ça en leur disant que l'écriture va être enregistrée. Et l'intérêt, c'est que, comme c'est transparent, si vous voulez, ça n'apparaît pas sur l'écran. Donc du coup, très vite, à la fois ils savent qu'ils sont enregistrés, mais en même temps, ils n'ont pas un truc qui leur rappelle tout le temps. Et donc on peut penser qu'on touche des... moi je fais ça sur l'écriture narrative, enfin de texte scolaire.
C'est très intéressant pour le écrire, réécrire et savoir quelle relation ils entretiennent avec leur propre.
Mais c'est sûr, bon, après il y a un problème d'éthique, enfin je veux dire, de quelque chose à gérer là-dessus, mais qui doit être gérable.
Moi j'ai trois questions simplement. Quel est votre rôle pendant qu'ils écrivent dans leur carnet d'écriture? Qu'est-ce que vous faites avec eux pendant qu'ils écrivent dans leur carnet d'écriture? Deuxième question, est-ce que vous leur proposez de partager leurs textes, c'est-à-dire de les lire aux autres, ou de leur, soit de les lire à haute voix, soit de leur montrer? Et puis, est-ce que vous faites leur faire, dans ces petits exercices d'écriture, est-ce qu'il y a, vu qu'ils sont en bac pro, tout ça, donc qu'ils ont un rapport, s'ils sont à l'école pour apprendre un métier, etc., est-ce qu'il y a aussi des textes qui sont du domaine de, justement, plus, et puis de par rapport à aux métiers qu'ils sont en train d'apprendre, enfin, qu'ils soient moins littéraires, qu'ils soient moins des écrits d'invention?
Oui, alors sur les thèmes abordés, je vais vous faire passer les carnets. Donc effectivement, j'essaye de partir beaucoup de l'expérience professionnelle des élèves, donc ça tout le temps, professionnelle ou personnelle. Ensuite, ça m'arrive tout de même parfois de faire des liens avec une séquence. Je sais pas, un exemple, on étudie en seconde la Renaissance, donc on étudie un tableau, et à ce moment-là, je leur ai demandé de choisir un personnage et d'écrire son monologue intérieur. Donc il y a un lien, mais qui entraîne toujours une écriture tout à fait personnelle et investie de façon personnelle. Après, moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire l'exercice en même temps qu'eux. Donc moi, j'ai mon petit cahier aussi et j'essaie de le faire. Parce que comme ça, du coup, on est ensemble. Et puis, voilà. Et puis, lire à haute voix, c'est plutôt sous forme de volontariat. Et c'est pas tout le temps. Il y en a certains qui partagent leurs textes, oui, quand ils en sont fiers, ils sont contents. Ou quand ils ont écrit une connerie, ils aiment bien aussi la dire devant les camarades. Donc ça dépend. Des fois, ça marche pas très bien. Ça dépend beaucoup de la classe, en fait. Ça dépend beaucoup de la classe. Mais surtout, c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup de mal, avec mes élèves, avec le contexte, à faire en sorte que ce soit aussi fréquent que je le souhaite. C'est vrai que j'aimerais bien mettre tout ça en place, j'adorerais, j'aimerais vraiment que toutes les semaines, le mardi, on ait 20 minutes et qu'on écrive et qu'on se partage nos textes, ça, j'aimerais, mais franchement, j'ai beau faire, j'y arrive pas, quoi. Il y a toujours des choses, des problèmes de discipline, des élèves en stage, des absents, des retardataires, des machins, puis bon, ça.
Il n'y a pas de travail de réécriture sur les textes? Et de réécriture, est-ce qu'ils réécrivent?
Plus à la demande, parce qu'ils sont très demandeurs. Alors très souvent, ils vont venir me voir. Et ils me disent, non, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et à ce moment-là, après, eux, ils reprennent leur texte. Donc ça, ils sont très, très demandeurs.
Sur la question de l'investissement, un des présupposés, c'est d'essayer de mobiliser les savoirs d'expérience des élèves de lycée professionnel. C'est-à-dire que... là encore, on présuppose qu'il y a tout un pan des savoirs des jeunes qui est rarement mobilisé à l'école. Il y a tout ce rapport au concret, aux pratiques, dans l'atelier ou par ailleurs. Et comment est-ce qu'on peut rebondir, s'appuyer sur ce qui se passe à l'atelier, sur leur passion? Je pense à un élève qui était féru de mobilettes. Et qui était incapable d'écrire deux lignes sur un sujet type BEP, mais qui était capable d'écrire trois pages quand il devait parler de sa mobilette. Et c'était comment, dans les carnets avec Cécile, c'est comment on peut aussi s'appuyer sur ces savoirs-là pour amener à l'écriture.
Et alors,
Typiquement, c'est l'exemple de la pêche. Quand on demande à un autre de parler de lui, il ne sait pas quoi dire, on lui demande de parler de la pêche, et tout à coup, l'écriture se libère.
Oui, d'où la question de la motivation.
D'où la question de la motivation et de savoir où est-ce qu'on va, alors non pas par laxisme, mais en disant, mais c'est là où la compétence va se déployer, va s'éprouver.
Et alors, dernière question, par rapport au fait d'essayer de voir comment ils écrivent sur Internet par rapport à Facebook, etc. Est-ce que s'ils le font à l'école, ça fausse les choses forcément? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils écriront les mêmes choses que ce qu'ils écrivent à la maison, d'autant plus s'ils savent qu'il y a qu'on...
En fait, il y a un tas d'expériences qui sont déjà menées sur des blogs, sur il y a plein de choses qui sont en train de s'expérimenter un peu partout. Donc, on collecte actuellement, donc dès qu'on a des jeunes dans notre entourage, on leur demande de nous transmettre des bouts d'échanges qu'ils ont. Moi, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui passe sur un iPhone, je demande, parce que là aussi, la question du support, tous ces jeunes qui écrivent en minuscule quand même, ça change le rapport physique au texte. On n'écrit pas la même chose sur un écran qui fait 10 cm sur 4 ou sur 7 que sur une pleine page. Donc, Moi, je crois qu'on en est vraiment au balbutiement par rapport à ça. On ne sait pas bien quand même encore. Ça devait être le support de cette année de travailler sur la norme à partir d'un recueil de données sur Internet. On voit bien que c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas si facile que ça.
Oui, alors ça, on a fait un lexique de termes, de vocabulaire professionnel ensemble. Et donc après, ils ont choisi des mots pour écrire un texte qui raconte leur première expérience professionnelle. Et puis c'est une réaction très scolaire, oui, ça, c'est pour la note, quoi. Comme ça, il a utilisé tous les mots.
Oui. En vous écoutant, je pense à une chose auquel on va devoir faire, à mon avis, très attention dès qu'on parlera d'écriture sur l'écran. C'est que, pour moi, l'écriture, c'est de la communication différée et l'oral, c'est de la communication en direct. Or, on assiste maintenant à de l'écrit qui est une communication en direct. Et je pense que ça doit être vraiment une troisième catégorie, exactement comme quand je dis à mes étudiants, quand vous racontez une histoire, c'est de l'écrit oralisé, ce n'est pas de l'oral. Et ici, on a de l'oral scripté, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais et je pense que c'est normal que les étudiants n'identifient pas ça comme situation d'écriture, parce qu'ils sont en fait dans de l'oral, qu'ils sont en train d'écrire. Et je pense que sans cette précaution-là, on risque d'avoir beaucoup de confusion. Et par ailleurs, je pense que cet écrit, enfin cet oral écrit, est très riche pour très fécond, parce que les étudiants ou les enfants se disent « mais j'ai un destinataire ». Et on revient à une question que je posais hier matin, qui est la question du destinataire. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent des heures sur Internet et qu'ils ne sont pas capables d'écrire à l'école? Et pourquoi est-ce qu'ils se mettent à écrire dans les carnets d'écriture? Parce que tout d'un coup, l'écriture va être lue d'une manière particulière par le professeur, qui va y réagir d'une manière ou d'une autre. Quand vous dites, ils viennent demander est-ce que ça va. Mais c'est parce que tout d'un coup, ils voient le regard de la personne et plus du prof qui va mettre la note. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument creuser. Ce sont toutes ces petites différences-là. Et chaque fois, le rôle du récepteur, même si ce récepteur est fantasmé, hein, comme on disait hier matin, je pense que c'est, on sent vraiment la motivation et la construction d'hommes et de femmes derrière. Et je pense que l'école a vraiment, quelque part, gâché le rapport à l'écriture et que vos initiatives sont extraordinaires parce qu'elles permettent justement de revenir à un rapport d'homme à homme, de femme à femme. Enfin,
Oui, c'est vrai que c'est pour ça que cette question du destinataire est importante dans la mesure où elle n'est pas du tout perçue par les élèves qui écrivent sur Internet et qui reste complètement dans le flou par rapport à ce destinataire-là qui est fantasmé mais qui est multiple, à la fois immatériel, mais voilà, et qui pourtant existe et leur permet d'écrire.
Et qui va leur répondre.
Mais, voilà. Mmh. Alors oui, ça dépend.
Ouais. Oui. Parce que je me souviens...
Parce qu'il y a aussi des messages lancés, je sais pas, sur Facebook, par exemple, je sais pas si vous voyez, alors... Faut y aller, hein.
Oui.
Mais c'est vrai que sur Facebook, on écrit sur son mur.
Voilà.
Et donc on écrit à qui veut bien nous lire. Enfin, mais on écrit des choses.
Oui, enfin, il y a
une communauté qui est un réseau, mais donc il y a quand même un destinataire qui est un destinataire collectif, qui est plus ou moins incarné dans des personnes qu'on connaît, mais plus ou moins, parce que le réseau d'amis. Voilà, c'est aussi les amis, des amis, des amis, des amis. On accepte les invitations. Donc cette question-là du destinataire. Elle est à prendre en compte pour que les élèves puissent réfléchir là-dessus. Mmh. Qu'est-ce que je dis à qui, quand et comment je le dis et qu'est-ce que je dis de moi.
Oui. Et est-ce qu'il vous arrive à vous de réagir en tant que lectrice à ce que eux écrivent dans leur cahier d'écriture?
Alors ça peut arriver ponctuellement avec un élève. Après voilà, mais c'est rare quand même.
Oui. C'était Dominique Bucheton qui était venu à un colloque avec un instituteur qui gardait la page de droite pour réagir à ce que les enfants avaient écrit à gauche ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons.
Moi, je me pose toujours aussi le rapport, puisque justement ces écrits-là, je parle de ceux de Facebook, enfin des réseaux sociaux, comme des iPhones ou des SMS, etc., qui ont inventé des nouvelles normes d'écriture très rapidement en plus, hein, et avec beaucoup d'inventions. Et comment, parce que l'école est là aussi pour revenir à la norme, quoi, à la norme d'écriture. C'est-à-dire que comme il y a les niveaux de langage, par exemple, il y a les niveaux d'écriture. Et souvent, les enfants, mais même les adultes, hein, quand on reçoit certains mails ou de copains ou de ça à nos âges avancés, il y a des gens qui écrivent maintenant, qui devraient écrire dans la norme d'écriture dont nous, on a l'habitude, comme des SMS ou des choses comme ça. Quel est le rôle de l'enseignant par rapport à ça? C'est-à-dire, déclencher l'écriture d'une autre façon, c'est une chose, mais on est là aussi comme enseignant pour revenir à une certaine norme, quoi. Je veux dire, c'est comme quand on fait de la poésie, on dit le langage, quand on a pris la norme, on s'en détache et on va inventer des choses. Là, c'est la même chose. Comment apprendre aux enfants ou réapprendre aux enfants à écrire autrement qu'en SMS ou en... Voilà, et ça, c'est quand même une question... Voilà. C'est une question en tout cas.
Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, alors vous n'avez pas la copie de l'entretien, mais une élève qui s'appelle Louise, qui met en débat cette question-là. Quand on lui pose la question, quand je lui pose la question, mais sur ton portable, t'écris comment? T'écris en SMS? Elle me dit non, j'écris pas en SMS. Alors il y a un nom pour ça? En T9, elle écrit, voilà. Et donc au sein même et le T9, alors je lui demande de m'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Et elle me dit, non, mais avec mes copains de lycée, elle est en lycée pro, avec mes copains de lycée général, je communique en T9. Donc, au sein même de l'échange, il y a des conventions qui commencent à déterminer les niveaux sociaux, le type de rapports sociaux, les groupes sociaux, en fonction de la norme qu'on utilise sur son portable ou pas. Donc cette question-là, elle est déjà en débat au sein même des élèves qui écrivent, c'est vrai. Donc on a vraiment intérêt à s'en emparer, hein. On a vraiment intérêt à s'en emparer, sinon ça se passe en nous,
Alors après, peut-être pour répondre plus précisément à la question, effectivement, l'un des objectifs, bien sûr, est de faire en sorte que les élèves se réapproprient une norme, mais encore faut-il qu'ils aient conscience de comment j'écris, à quel moment, quand je m'adresse à quel type de dessinateur. Donc c'est vrai que, bien entendu, l'objectif du travail, un des objectifs du travail dans le carnet, c'est de faire en sorte que les élèves, qui en plus, moi, sont plus des enfants, parce que j'ai des élèves qui ont 18 ans, qui l'année prochaine seront dans le monde du travail, donc que ces personnes-là, ces adultes-là en devenir, qui se réapproprient une norme, effectivement, qu'ils ne maîtrisent pas du tout. C'est vrai que tout le jeu étant de pas de qui voit bien que c'est pas un exercice purement scolaire, que c'est pas un exercice de vocabulaire ou de grammaire. Donc effectivement, il y a ici, en tout cas dans la fréquence des exercices, déjà quelque chose qui se joue, et puis dans la notion du dessinateur, à qui j'écris et comment. Et donc là, ce que disait Vincent est intéressant. Parce qu'ils font eux-mêmes la différence. Ils écrivent en T9 pour écrire les mots bien orthographiés quand ils s'adressent à quelqu'un. Puis quand c'est à leurs copains, ils écrivent n'importe comment avec leurs abréviations, etc.
Oui, juste plusieurs remarques. Peut-être une à propos de ces écritures sur écran. Vous voyez, on passe très vite de l'écriture. On a parlé de 6h30 sur Facebook et peut-être 2 heures par élève ou 1 heure par jour. Et tout de suite, on en arrive au SMS, et je crois que là, on a 2 formes d'écrit qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sur Facebook, l'écriture, c'est de l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est pas du chat. Alors évidemment, ça dépend, mais c'est pour dire tout de suite. C'est de l'oral retranscrit. Sur Facebook, voilà, c'est pas du chat, donc bon, il va falloir différencier les types d'écrit. Et sur écran, parce que là, et je pense que l'intérêt d'Internet, l'intérêt des écrits sur écran, c'est de réinterroger l'oral, enfin le rapport entre oral et écrit. Et visiblement, on n'a pas aujourd'hui tout à fait les moyens pour. Il y a une tension là qui est réinterrogée par ces écrits-là. Et il y a aussi le rapport de l'intime et du public qui là aussi est complètement réinterrogé et avec lesquels visiblement les adolescents n'ont pas particulièrement de difficultés aujourd'hui et qui pour nous adultes on se trouve vraiment dans une sphère assez préhistorique par rapport à eux où le rapport de l'intime et du public est en tout cas plus...
Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, c'est pas nous qui sommes préhistoriques, La question de l'intimité, de toute façon, elle se pose, qu'on soit jeune. Alors, elle se pose avec un outil, c'est pour ça que, en introduction, je citais les trois événements, avec un outil dont on ne mesure pas encore, dont on peine à mesurer les implications que ça a, quand on entend ce que ça suscite dans le monde de Wikileaks, là. Donc, on ne mesure pas, et la diplomatie américaine n'a pas mesuré la portée de cet outil-là. Mais je ne pense pas que ce soit notre positionnement à nous qui soit fondamentalement interrogé. C'est bien la question dont aujourd'hui l'intimité se crée ou ne se crée pas. Je vous renvoie à l'œuvre, à l'ouvrage de Tisseron, Serge Tisseron, l'intimité surexposée, où cette question-là, elle est vraiment, on a besoin d'intimité, nos élèves ont besoin d'intimité. Et quand hier j'entendais Ruffin, c'est l'ambassadeur de France, qui disait « il n'y a plus aujourd'hui de secret possible », il ne le disait pas d'un ton très joyeux. Il le disait, donc il a rajouté tout de suite après « il faut trouver d'autres moyens ». Donc on est bien, non pas sur la remise en cause de la question de l'intimité, mais de quelle façon cette intimité va pouvoir exister ou pas. Et nos élèves aujourd'hui ont absolument besoin d'intimité. Et l'outil, c'est cela qui l'interroge. Nous, en tant qu'enseignants, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir enseigner la maîtrise de cet outil. À quel moment on va dire, ça je le dis, ça je le dis pas, ça je le dis à tel, mais je le dis pas à tel autre, quelles précautions je prends, etc.
Et puis je pense aussi par rapport à une remarque qui a été faite tout à l'heure, dans quelle mesure justement le manque d'investissement scolaire dans l'écriture, la sphère de l'intime, parce que la personne qui parlait d'échec tout à l'heure par rapport au collège, par rapport à l'écriture, etc., dans quelle mesure il n'y a pas un effet de vase communicant? Je veux dire, où est-ce qu'aujourd'hui les élèves ont la possibilité de mettre par écrit ou bien même par oral de développer tout ce qui appartient à leur intimité? Donc est-ce qu'il n'y a pas justement ce problème-là qui fait qu'effectivement aujourd'hui on assiste à des déballages qui oui. sont certainement nuisibles aux jeunes eux-mêmes?
Du coup, je me posais une autre question à propos de ce que vous nous avez présenté comme dispositif, à savoir ces carnets de lecture. Je me demande en fait si ce dispositif, il n'est pas double, c'est-à-dire si vous ne présentez pas le carnet de lecture avec les entretiens qui vont avec. Il me semble qu'il est difficile, dans ce que vous présentez, de séparer l'un de l'autre, dans la mesure où le carnet de lecture est un espace qu'on peut appeler espace de sémiotisation, où l'écriture prend sens, mais comme il y a une parole de l'adulte en plus sur cet espace-là, ça lui donne doublement du sens. Et juste à propos des... Et après je passerai le micro à d'autres. À propos des consignes d'écriture sur le qui permettent le monde du... qui permettent une relation intime au monde du travail, si on veut. Le travail de François Bon dans ses ateliers d'écriture, Tous les mots sont adultes, est extraordinaire. Juste... Et là, l'expérience de François Bon dans les ateliers d'écriture, en lycée professionnel en particulier, a permis ces liens-là entre écriture et expérience professionnelle, intime, écrit littéraire, et de rebattre les cartes entre écrit littéraire et écrit d'expérience, il me semble.
Mais en tout cas, c'est vrai que, pour revenir sur ce que vous dites, dans les classes avec lesquelles on a eu plus d'entretiens, et où vraiment, justement, la parole de l'adulte, comme vous dites, a mis en perspective le travail sur le carnet, j'ai l'impression que dans ces classes, justement, on a beaucoup plus avancé et les élèves ont beaucoup plus investi le projet. C'est vrai que ce lien est très, très important.
Moi, je voulais juste lever deux ou trois choses que j'ai entendues qui me paraissent un peu, pas forcément fausses, mais relevées d'une difficulté à appréhender des évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides. Quand vous distinguez le langage SMS du langage du chat, ça n'est plus du tout d'actualité, les outils actuels fondent tout ça. Donc on peut écrire un mail à partir de son téléphone portable entièrement, et on peut avoir un clavier dans son téléphone portable qui vous permet de saisir quasiment plus confortablement que depuis un ordinateur fixe. Donc il y a des distinctions qui... nous sont naturels parce que nous avons pris l'habitude de catégoriser les outils, de dire qu'un modèle d'outil entraînait un modèle de production. Or, les modèles de production vont vers une fusion de tous ces outils-là, et du coup, ces distinctions vont vite être obsolètes. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est de dire, est-ce que ce sont... des outils d'apprentissage, au sens où vous mettiez ça en perspective, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont reconnus comme scolaires par les élèves, ou est-ce que leur usage dans le cadre scolaire peut être reconnu? Alors il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème clé, vous le disiez, il y a le problème de l'équipement. C'est-à-dire il faut avoir la salle informatique si vous voulez utiliser ça, il faut se placer, donc c'est pas à négliger du tout, hein. C'est vrai que les obstacles c'est très important, et que finalement notre bon vieux cahier CIS il est quand même bien pratique, hein. Donc voilà. Cela étant, ce que constatent les gens qui expérimentent des écritures, ce qu'on appelle Web 2.0, c'est-à-dire avec de l'interactivité, avec la possibilité du commentaire. Hein. Ce matin, on a parlé de post-it qu'on collait dans les carnets. Ben, on peut mettre des commentaires sur un blog. On peut. C'est aussi désinvesti que les autres supports scolaires. C'est-à-dire que c'est pas le support qui crée le dynamisme d'écrire, c'est vraiment l'investissement, l'effet maître, tout ce que vous allez dans la médiation mettre devant. L'outil en lui-même, il génère pas l'écriture. Ou il va le générer lors des deux ou trois premières séances. Donc faut pas rentrer dans cette espèce d'illusionnisme qu'ont eu beaucoup de gens, de dire ça va renouveler, ils vont se remettre à écrire, ben, c'est formidable. Ils se remettent à écrire deux séances. Après, si ça reste scolaire, si ça reste en dehors de ce qu'exprime très bien la collègue, quand elle vous a dit, ils vous sentent investis, ils sentent que c'est quelque chose qui porte pour vous, voilà, l'outil, ça n'est qu'un outil, comme le papier et le crayon. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a un effet un peu, je dirais pas la même chose sur l'effet de lecture. C'est-à-dire la fascination de l'écran est un peu différente en réception. Mais en production, on a les mêmes écueils, hein, quand on peut tester des blogs avec les élèves, l'usage de réseaux sociaux, on a les mêmes écueils. La seule chose sur laquelle on n'a pas d'écueil, c'est précisément l'utilisation de Facebook, mais sa vraie utilisation, c'est-à-dire pour créer un réseau social. Donc par exemple, vous avez un exemple, le lycée de l'Iroise, qui est près de Brest, je crois. Ma géographie est très lacunaire. Et dans ce lycée, le prof de lettres de première L et de TL met en réseau ses élèves actuels avec ses anciens élèves qui ont trouvé du travail. Et il y a la construction d'un réseau de connaissances. Et là, c'est la vraie fonction de l'outil. Il fait ça sur Facebook, et vous pouvez regarder, hein, le site est ouvert à tous, on peut jeter un coup d'œil, c'est extrêmement intéressant, les échanges sont vrais parce que ça répond à l'usage de l'outil, c'est un outil de réseau social, c'est pas détourné à des fins pédagogiques, et là ça marche. Mais effectivement, après, il faut se méfier, ça n'est que des outils, ça ne génère pas l'écriture.
Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on a quand même une génération d'élèves qui, il y a 20 ans, encore une fois, n'écrivait pas. Le monde ouvrier écrivait très peu. Alors que là, on a une génération de jeunes qui écrivent beaucoup. Moi, autour de moi, les jeunes que je connais, qui sont de milieux populaires, en lycée professionnel ou ailleurs, ils écrivent quasiment autant que moi. Donc l'outil génère de l'écriture. C'est-à-dire que les réseaux sociaux génèrent de l'écriture. On a des jeunes qui écrivent.
C'est bien ce que je vous dis. De l'écriture, pas de l'écriture scolaire.
Ah non, mais c'est bien tout.
On est bien d'accord.
Alors, en sachant que peut-être aussi le cœur du projet est d'amener les élèves à réfléchir sur leur pratique d'écriture. Pas forcément de générer une pratique qu'ils n'ont pas à la base. Parce que le constat duquel on part, c'est quand même que les élèves écrivent beaucoup tout en ne reconnaissant pas leur pratique comme une pratique d'écriture. Donc déjà les amener à la conscience du fait qu'ils écrivent et que ce fait-là d'écrire n'est pas anodin. C'est-à-dire que j'écris, je vais investir des choses qui me sont intimes, je vais développer quand même une technique, écrire, utiliser un vocabulaire, tout ça mérite d'être réfléchi, d'être mis en question en tout cas.
Excuse-moi, je voulais juste faire une petite remarque à propos justement de Facebook scolarisé là d'une école à l'autre. C'est que normalement sur le réseau Facebook, donc les gens disent « veux-tu être mon ami ?» et je réponds « oui » ou « non ». Et donc le réseau se crée aussi par affinité, par choix, par rejet. Alors que dans le cas de la pratique scolaire, on a la classe de Madame Machin, qui va être en réseau avec la classe de Madame Machin. Et donc, d'une certaine façon, on scolarise, on impose, etc. Et je pense qu'en scolarisant, on va, encore une fois, nécroser cette pratique scolaire, enfin, cette pratique d'écriture sociale. Voilà, c'est le danger, la dérive.
Excusez-moi, je vais m'improviser, mais c'est pas. Vous avez aussi des pages entièrement publiques sur Facebook où on va aller suivre une information au jour le jour, voir des choses. Donc dire que ça n'est que l'espace d'une lecture de cooptation où on choisit ses lecteurs, bah, l'outil démon lui aussi, c'est-à-dire que il échappe à son propre fonctionnement initial. Évidemment qu'au départ, on pensait que tout serait privé et qu'on réalise au fur et à mesure que de plus en plus de choses qu'on met dessus est publique, à commencer par les photos qui peuvent être récupérées par la société Facebook à des fins commerciales. Donc c'est un espace de plus en plus public. Et du coup, dire que ça nécrose certainement, je pense que la tentative du collègue, elle est très centrée sur un objet, l'orientation des filières littéraires, il y a un vrai enjeu, mais ça va durer ce que ça va durer, et peut-être que dans 5-6 ans, il sera dans tout à fait d'autres usages.
Parce que je me demande à quel point l'effet de mode, le nom Facebook, parce que sur le web pédagogique, par exemple, on peut faire ça, mais ça serait sûrement moins apprécié par les élèves d'aller sur le web pédagogique, tandis que d'aller sur Facebook, du coup... Voilà, est-ce que c'est pas juste le nom Facebook qui fait qui fait la réussite du projet?
Simplement, je voudrais attirer l'attention sur ne pas confondre intime et espace privé et espace public.
C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'entends une certaine confusion entre l'intime, les écrits intimes. On peut très bien mettre de l'intimité sur des espaces publics. Par contre, il y a une dimension légale, avec donc forcément peut-être des procédures derrière légales, entre ce qui est de l'ordre de l'espace privé et de l'espace public. Hein, c'est-à-dire qu'on a dit, nous, les écrits intimes en milieu scolaire, oui, ça posait problème, mais là, on est encore dans une autre dimension, qui est celle maintenant de tomber sous le coup de l'espace public, avec une loi qui le gère. Voilà, simplement.
Moi, je crois qu'il faudrait bien distinguer deux types de discours, deux types de raisonnement, deux types d'approche, qu'on a un peu mélangé à plusieurs reprises dans la discussion. Il y a d'une part la description qui peut être linguistique ou qui peut être ethnographique de pratiques qui nous intéressent ici, qui sont des pratiques d'écriture. Donc on peut décrire la pratique du SMS par une classe d'âge, par exemple, ou on peut décrire l'utilisation de Facebook par une classe d'âge, le décrire, par exemple, en entrant dans des sous-catégories, comme le faisait Vincent tout à l'heure, en remarquant que certains enfants utilisent tel type de système quand ils écrivent à tel type de... Alors qu'on n'a pas en gros la même utilisation du clavier, le même code sur le clavier, selon qu'on écrit à X ou à Y. Donc là, on est dans des descriptions de tout à fait de type ethnographique. On peut avoir des descriptions de type linguistique pour voir quelles déformations, quelles transgressions produisent l'utilisation de SMS. On peut s'interroger sur la pratique de Facebook, comme on vient de le faire depuis un moment, avec la question du rapport à l'intime, au privé, au public. Et puis, donc ça, c'est un premier type d'approche. Et puis, il y a la question de l'apprentissage de l'écriture à l'école. Et donc là, ces deux approches sont à la fois complètement différentes, et puis elles peuvent être complémentaires, c'est-à-dire ce que je sais d'une approche linguistique ou ethnographique du journal intime peut éclairer dans une certaine mesure ma pratique d'enseignant de l'écriture, pour l'écarter ou pour m'en servir. Mais il me semble que ce sont deux choses très très différentes. Ce que je sais de Facebook peut très bien ne servir à rien par rapport à une pratique d'enseignement. Ou alors, au contraire, ce que je sais de Facebook, sans que ça soit nécessairement introduire Facebook dans la classe. Mais ce que je sais de Facebook peut m'aider à construire des séquences d'enseignement ou des projets d'écriture dans la classe. Je crois que là, il faudrait qu'on soit très, très au clair là-dessus. Et je crois qu'à plusieurs reprises, on en a parlé aujourd'hui, autour de la question de Vincent, y est revenu très, très précisément en citant Bottier, je crois, tout à l'heure, sur la question des objets d'enseignement. Qu'est-ce qui s'enseigne, qu'est-ce qui ne s'enseigne pas, qu'est-ce qui peut être nourri d'une réflexion sur ces écritures extrascolaires, libres, qu'est-ce qui peut être nourri de la pratique d'enseignement par ces écritures extrascolaires. Et là, je crois que le problème est complètement ouvert. On a à explorer des territoires, on n'en sait rien. On n'a pas de...
Peut-être aussi avec quand même le retour inverse. C'est dans un monde qui va très très vite, on a des programmes scolaires qui, peut-être, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais qui risqueraient de passer à côté d'une évolution qui est en train de se produire et qui continue sur sa lancée, sa propre logique, qui est un héritage. On voit bien avec les programmes Bac Pro qui viennent d'être rénovés, hein, on est dans cette tradition absolument incontournable humaniste, des grands textes, du texte littéraire et du texte écrit. Très bien. Mais peut-être la question qui se pose, c'est comment à la fois maintenir ça et ne pas passer à côté de ce qui se développe, c'est-à-dire tout un rapport au texte, un rapport à la lecture, un rapport à la production écrite qui est en train de se développer de façon autonome et très riche et qui pour l'instant n'est pas encore matière d'enseignement. Alors ça commence à être une matière d'étude, de recherche, mais c'est pas encore une matière enseignée en tant que telle. Donc c'est un peu la question on déchiffre, d'autres l'ont fait avant nous, mais on découvre, et c'est moi la question que ça me pose. C'est comment faire pour que on ne passe pas à côté de ce qui est en train de se développer.
Ça ne peut pas être considéré comme une matière, puisque quelle que soit la discipline, c'est bien un outil au service d'eux. Enfin, les mathématiciens se posent les mêmes questions avec les apports de ces nouvelles technologies. Hein. Non, ça fait quand même quelques années maintenant que plein de gens s'intéressent aux apports et à la plus-value dans l'enseignement de ces technologies. Hein. C'est pas nouveau. Hein.
Excusez-moi, les nouveaux programmes de seconde, l'enseignement littérature et société, il y a 4 des 6 thèmes qui sont proposés aux professeurs qui sont entièrement... ça s'appelle de l'agora au forum, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas des lettres classiques, hein, c'est de l'agora grecque jusqu'au forum aujourd'hui sur la toile. Et il y a toute une série de thèmes comme ça qui sont proposés, qui sont vraiment tournés autour d'un usage raisonné, et c'est dans un enseignement qui s'appelle bien... littérature et société. Donc, il y a quand même, même si c'est peut-être pas dans le domaine de la recherche, il y a au moins du côté des inspections la volonté de poser. Enfin, il y a peut-être pas encore de réponse, mais au moins ils posent les questions.
Moi, je viens de lire un article qui va être publié dans une revue scientifique faite par un laboratoire de linguistique. C'est une étude justement faite auprès de PLC2 concernant leur intégration dans leur pratique de l'informatique. Et l'enquête, alors c'est pas un échantillon représentatif puisque ça a été fait dans le cadre d'une université seulement, et c'est seulement avec des futurs enseignants en lettres, donc des PLC2 lettres. C'est leur inculture numérique est absolument écrasante. Hein. C'est-à-dire que là, ça donne complètement raison à ce que disaient Vincent et Cécile. C'est-à-dire que probablement que les inspections, que les programmes glissent lentement vers quelque chose, mais dans la culture moyenne des enseignants de lettres, ça reste quelque chose de... Et même des très très jeunes enseignants de lettres, de débutants, ça reste quelque chose de complètement extraterrestre.
Là encore, on tire du côté du lycée professionnel. C'est-à-dire que des jeunes de lycée d'enseignement général maîtrisent ces différents registres, maîtrisent globalement assez bien. Ce qui me semble, là encore, un peu déterminant pour les jeunes auxquels nous sommes confrontés, avec lesquels nous travaillons, c'est que on n'a pas des jeunes qui écrivent ici et qui écrivent là. On n'a pas des jeunes qui écrivent une dissertation en cours de français en seconde ou en première et qui par ailleurs vont chatter sur Facebook ou sur Mythique. On a des jeunes qui n'écrivent pas en cours de français et qui passent des heures ailleurs. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est ce décalage entre tout d'un coup, d'autres parleront de... Enfin, je ne sais pas de quoi on peut parler d'ailleurs, comment on peut qualifier ça. Mais en tous les cas, dans un cas, il y a un registre, il y a des registres. Et les élèves, les jeunes passent de l'un à l'autre de façon assez naturelle. Dans l'autre cas, on se questionne, c'est une question, en se disant, là, il y a un déséquilibre qui est en train de se produire entre une pratique d'un certain type d'écrit massive et quelque chose où on peine quand même à les faire rentrer dans l'exercice scolaire.
Il me semble que ces questions, elles se sont posées à l'école du point de vue de la lecture dans les années 50-60. Je crois que c'est Anne-Marie Chartier qu'on voit demain matin qui, dans son livre « L'histoire de la lecture obligatoire », parle de la relation entre la culture de l'école et la culture hors l'école. Et l'école est toujours à côté de la plaque, je crois, du point de vue de la société. Et lorsque, enfin, la situation que vous décrivez là, il me semble, c'est celle qu'Anne-Marie Chartier décrit lorsqu'elle dit que il y avait des élèves qui ne lisaient pas à l'école et qui pourtant lisaient des illustrés à l'extérieur de l'école, ce qu'on appelait après la bande dessinée et tous les Strange et qui nous venaient des États-Unis et que l'édition française a essayé de suivre tant bien que mal. Il me semble que là, du point de vue de l'écriture, on se retrouve avec 40 ans de retard parce que 40, 50, je peux, 60 peut-être, plutôt 60, avec ce même décalage, c'est-à-dire avec des élèves qui n'écrivent pas à l'école et qui écrivent à l'extérieur. Et là, peut-être, il y a des modèles d'intégration à venir chercher.
Et d'autant que nous, on ne vit pas ça comme un drame. Au contraire, on se dit, tiens, puisqu'ils écrivent là, ils doivent pouvoir écrire à l'école. Enfin, c'est un peu le... Donc pas une question de scolariser à tout craint ce qui est en train de se passer à côté, mais c'est de dire s'ils ont une pratique ici, alors il devrait y avoir moyen de les faire écrire et donc de les faire travailler, de les faire.
Il y a deux manières d'enregistrer ce décalage. Il y a une première manière qui est de considérer que il faudrait qu'on ouvre les yeux, un petit peu comme les gens des années... Oh, je crois que cette phase critique que tu évoques et qu'évoque Anne-Marie Chartier, elle dure bien au-delà, parce que les grands débats autour de la fin des années 70, les travaux de Foucambert, etc., posent bien cette question-là. C'est-à-dire que les jeunes lisent, stop, halt, assez dit qu'il n'y a pas de pratique de lecture. Les jeunes lisent effectivement, simplement ils ne lisent pas ce que vous voudriez qu'ils lisent. Et le débat n'est pas fini, parce qu'il n'arrête pas. Le bouquin de Baudelot, Estavelle, etc., dit bien la même chose. Le titre, c'est « Et pourtant, ils lisent ». Et pourtant, ils lisent, mais ils ne lisent pas ce que vous aimeriez qu'ils lisent. On pourrait dire de la même manière « Et pourtant, ils écrivent hein ». Donc, ah bon ? Elle l'avait intitulé comme ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment une chose. On devrait, nous, en tant qu'enseignants, formateurs, enseignants, etc., avoir les yeux clairement ouverts sur cette situation, qui est qu'il y a... Il n'y a pas d'absence de pratique d'écriture, il y a un décalage, et en plus il y a des progrès dans l'écriture, Cécile et Vincent ont bien insisté là-dessus, on écrit probablement plus dans cette génération-ci que dans les générations précédentes, donc il y a un décalage entre des pratiques ordinaires, sociales, familiales, et puis des pratiques scolaires. Donc ça c'est un premier point, le savoir, une fois qu'on le sait, qu'on en a pris la mesure, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça change dans notre regard sur eux, par exemple, simplement ? Je crois que par rapport à la lecture, c'est vrai qu'à un moment, ça a eu pour conséquence le fait qu'on s'est dit que, effectivement, il y avait des compétences remarquables qui étaient en œuvre dans la lecture de magazines, qu'il s'agisse de bandes dessinées ou de magazines documentaires ou de magazines de sport, etc. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est celui sur lequel travaillent Vincent et Cécile, ce qui est-ce que, quand même, les exigences de l'école n'ont pas un minimum de légitimité, le type de rapport à la norme qu'impose l'école n'a pas quand même un minimum de, au moins pour les 10 ou 15 ans à venir, on ne réussira pas aux examens autrement qu'en entrant dans les cadres qui sont les cadres attendus de l'école. Donc on peut penser que ces cadres vont changer, que ces normes vont changer, mais au moins pour les quelques années à venir, ces normes sont là et il faudra bien que les enfants qui écrivent des SMS et qui écrivent sur Facebook entrent dans ces cadres-là pour faire une composition française, etc. Et donc, est-ce que le fait de prendre appui sur leur pratique familiale ou leur pratique ordinaire est une partie de la solution pour les amener à... Ou bien, est-ce qu'on doit continuer de manière extrêmement frontale à faire ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire ignorer que les enfants lisent à la maison et le jour de l'entrée en sixième, leur proposer les favoris de Scapin et voir ce que ça va donner. Et en fait, ça donnait des choses assez désastreuses en général, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, ils étaient loin de... Est-ce que, et là, l'une des solutions trouvées, ça a été de laisser une place aux lectures cursives, à la littérature de jeunesse, parce qu'on a considéré que c'était une bonne médiation pour passer... Voilà. Est-ce que l'écriture peut inventer des médiations de ce genre ? Et les cahiers, enfin, c'est un peu autour de ça qu'on parle pendant ces quelques jours. Il y a un peu l'hypothèse que il y a une place dans le cadre de l'école pour proposer des écrits qui qui accorde plus de valeur, de place, tout simplement, à ce qu'on peut faire assez spontanément quand on est en dehors de l'école. Alors, peut-être pas la solution, ça suffira certainement pas, mais c'est peut-être une médiation possible, imaginable. Voilà.
Si je peux ajouter à la discussion, c'est les travaux de Barré et de Mignac, justement, qui ont montré que les élèves écrivent en dehors de l'école, mais ce sont ceux qui sont les meilleurs étudiants, qui profitent mieux dans l'écriture scolaire de ce qu'ils écrivent en dehors de l'école. Alors, je crois que ça, il faut le tenir aussi en compte, d'après ce que vous disiez, pour savoir, je sais pas, hein, mais pour savoir comment utiliser cette écriture des jeunes. Ce que je pense, c'est que l'école ne doit pas enseigner la jeunesse aux jeunes. Ils la savent, ils la trouvent. Alors l'école est là pour autre chose. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et alors là, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Il ne faut pas marginaliser. Non, je suis pas pour. Il faut intégrer, mais intégrer en n'oubliant pas que c'est dans l'école qu'on est en train de travailler. Et on a toujours la préoccupation, je comprends, de dire on va pas noter, on va pas classifier ses écrits pour qu'ils puissent être plus à l'aise, etc. Mais c'est vrai que ce qui est spécifique de la norme scolaire, c'est justement la classification, être noté, avoir une note et être... Non, je dis ça, on est justement dans un projet au Portugal, on essaye de travailler et de connaître la réalité déjà. L'Internet, les jeunes, l'écriture, on fait une grande enquête pour savoir comment ça se passe. Et c'est vraiment, on est dans un moment de frontière dans la civilisation, disons. Et c'est difficile de... Mais je pense que... Cette idée de transposition, disons, les jeunes qui écrivent mieux, qui sont les meilleurs étudiants, sont ceux qui profitent mieux. Les apprentissages qu'ils puissent développer dans leur écriture intime, privée, particulière, là, je crois que c'est une leçon qu'on doit tenir aussi en compte. Et c'était ça que je voulais dire. Mais merci pour la discussion, j'ai beaucoup aimé.
Ah oui, je pense qu'on est, on est d'accord avec ce que vous venez de dire. Il reste que, moi je viens de lire deux ouvrages anglo-saxons qui appartiennent à une espèce de mouvement qui se dessine en pédagogie américaine et canadienne, un mouvement qui s'appelle la littératie critique. Et l'idée de la littératie critique, c'est d'essayer d'appuyer l'entrée dans la littératie sur des connaissances et des cultures qui sont du déjà là. En particulier, alors il y a par exemple, bon, je me souviens d'un article sur la culture des jeunes, s'appuyer sur la culture des jeunes. Parce que c'est bien joli de vouloir... Donc moi j'entends bien ce que vous dites et je sais bien qu'il y a un vrai débat et qu'il y a un vrai risque. L'école, c'est effectivement le lieu de l'apprentissage d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de cadres. On est complètement d'accord et on ne peut pas faire semblant de... Effectivement, on ne peut pas faire croire aux élèves que l'école, c'est un endroit où on a un cahier, où on écrit absolument ce qu'on veut, quand on veut, pour faire ce qu'on veut, etc. Donc, c'est vrai que ça représente un certain nombre de risques. Ça ne peut pas être ça. Parce que les examens, parce que la vraie vie, parce que les sanctions, elles arriveront dans le... autrement. Donc, on est bien d'accord. Mais, si l'école ne tient pas compte du fait que les gens qui sont en face de nous sont, on l'a dit à un moment, je crois cet après-midi, des personnes... C'est-à-dire des personnes qui appartiennent à des cultures, à des cultures, plusieurs cultures, à des réseaux culturels, à des environnements culturels, qui ont, par exemple, en commun d'être, justement, des jeunes, et donc des pratiques de jeunes, des goûts de jeunes pour un certain nombre de textes, de manières d'écrire, de manières de s'exprimer. Je crois que cette école-là, cette école qui ne tenait pas compte, nous la connaissons bien, c'est l'école républicaine française, qui ne tenait compte ni des différences de sexe, ni des différences linguistiques, ni des différences de région, et qui faisait Racine et Corneille pour tout le monde. Cette école-là, elle a parfaitement réussi à scolariser, jusqu'à un très haut niveau, 15% d'une classe d'âge, quand on arrivait au... Voilà, qui arrivait au bac dans les années 50 voilà. Donc bien sûr, ça marche très très bien pour 15% des enfants. Je pense que les propositions qu'on entend pendant ces quelques journées ne vise pas à se masquer les choses et ne vise pas à dire, voilà, c'est la solution, on s'exprime. C'est pas du tout ça. Et a vraiment cette idée de... Moi, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé quand je travaillais auparavant sur la lecture. Je tiens beaucoup au terme de médiation. Je ne crois pas qu'on puisse avancer sans médiation. Les paliers sont des endroits redoutables, quoi. Franchir un palier, c'est, il faut être aidé, il faut une médiation. Et entrer dans la culture scolaire, c'est le but, mais pour entrer dans la culture scolaire, il faut aussi que celui qui frappe à la porte se sente reconnu et qu'on lui amène... Alors, il y a des dangers. Quand effectivement les élèves interrogés disent « Oh, mais j'ai l'impression que ce n'est pas du travail », c'est un problème. C'est un problème qu'il faut résoudre. Il faudrait arriver à lui faire comprendre que c'est aussi du travail, que c'est un travail autre. Mais c'est le problème exactement celui que décrit Elisabeth Bautier quand elle parle des grandes sections de maternelle. Et les gosses qui, en grande section, ont le sentiment qu'ils foutent rien, qu'ils sont là pour jouer. Alors effectivement, s'ils ont le sentiment qu'ils sont là pour jouer, le maître qui a pensé quelquefois à une pédagogie ludique se plante complètement, parce qu'il a en face de lui des enfants qui ils croient qu'ils jouent, donc ils sont pas là pour apprendre. Donc il faut être à la fois, il faut bien avoir une approche ludique pour que les enfants se sentent concernés, parce que si on leur fait faire des lignes de A et des lignes de B dès le jour de la rentrée en grande section, ça va pas être très satisfaisant, ça va être assez brutal. Mais en même temps, si on joue trop, on n'a pas le sentiment d'être à l'école. Donc là encore, on a des compromis à trouver, et tout est à inventer. Je crois que là pour le coup, les gestes professionnels et l'habileté de chacun sont en cause. C'est vrai qu'on ne pourra jamais produire de modèle universel. Voilà. Mais moi, je crois beaucoup à cette idée de littératie critique et d'appui sur des pratiques communautaires. Alors en France, le mot communautaire fait toujours très très peur, parce que communautaire, communautarisme, etc. Oui, d'accord, mais suivant justement les publics spécifiques, suivant les publics, suivant les milieux, suivant les contextes, on a intérêt à tenir compte de ce que les gens, c'est-à-dire les élèves, les gens sont des personnes à part entière avec une histoire.
Je pense qu'il faut entendre aussi dans le fait qu'ils n'avaient pas l'impression de travailler, peut-être la notion, enfin le sentiment du plaisir d'écrire, qui certainement, justement, pour les élèves que j'ai dans mes classes, est totalement éloigné. L'écriture et plaisir sont deux choses, deux réalités complètement différentes pour eux. Et effectivement, qui comprennent que écrire n'est pas simplement un exercice. Que pour eux, la difficulté de la maîtrise de la norme entraîne une difficulté d'écriture qui pour eux était vraiment un travail. Un travail vraiment... voilà, au sens étymologique du terme. Alors qu'ici, justement, voilà, cette notion, ce plaisir d'écrire excluait ce petit exercice du carnet du travail qu'on fait en classe de français quand on écrit un paragraphe argumenté, où là, c'est un travail, quoi.
Par rapport à ces oppositions culture jeune, culture adulte, etc., j'aurais juste une réserve sur notre dernière diapositive. Très, très honnêtement, je me demande si c'est une bonne idée d'aborder un aspect de la culture jeune sous l'angle du risque. Vous voyez, c'est un petit peu comme d'aborder la bande dessinée sous l'angle du... la bande dessinée, maintenant, c'est parfaitement légitime, il y a des prix, il y aura bientôt des académiciens. Gottlieb entrera bientôt à l'Académie française, donc... Mais il y a eu une époque où on aurait abordé la bande dessinée, où on aurait abordé la littérature de jeunesse, ou la paralittérature, que sous l'angle de... On va lire James Bond pour voir les stéréotypes, si vous voulez. Et donc, du coup, on va le lire pour le discréditer. Je trouve qu'il y a un tout petit risque dans votre présentation, là, qui est de mettre l'accent sur ceux qui, en ce moment, entraînent la vindicte des médias. Facebook, ça entraîne des gens à se suicider, ça provoque des catastrophes, etc. Je pense qu'il y aurait d'autres entrées. C'est l'entrée, effectivement, par la description... Qu'est-ce qu'on écrit dedans? Enfin, des entrées plus neutres que celles qui, tout de suite, voyez, intime, extime, autorégulation de son propos, tout de suite, on voit venir l'adulte, là, qui dit, attends, petit, tu prends des risques inouïs, tu te rends pas compte, quand tu auras 20 ans, ça va te suivre, etc. Choses qui sont vraies, et qu'il faudra peut-être bien dire à un moment. Mais je me demande si une entrée par le plaisir qu'on prend à construire un réseau d'amis, le charme de Facebook, le plaisir qu'il y a à passer 2 heures tous les soirs avec des amis lointains et à... Non, c'est vachement bien Facebook.
C'est une question d'entrée, après...
Oui,
c'est une question de présenter les choses, en tout cas d'une entrée.
Mais savoir aussi ne pas cliquer sur retour à la liste ou répondre à la liste. Certains collègues d'ailleurs pourraient suivre des formations. Mais justement, enfin, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on n'apprend pas et ce qu'on pourrait apprendre. Et ce qu'on peut-être l'école devrait apprendre. Et là, pour le coup, il y a une vraie prise de risque. Parce que quand par malheur, on fait répondre à tous et qu'on envoie un chapelet d'injures parce qu'on est très en colère et qu'Internet favorise la colère, c'est tout un réseau social qui est tout d'un coup, on perd. Donc je suis d'accord avec toi, hein, il faut mieux rentrer par la positive que la négative. Mais en tous les cas, c'est un peu comme une dégauchisseuse, quoi. C'est l'outil, en lui-même, il permet de faire de belles pièces, mais il faut pas y laisser son petit doigt, quoi, parce que c'est un peu des gestes à apprendre, à enseigner. Typiquement, cliquer sur répondre à tous ou répondre à l'envoyeur. Et ça, nos élèves ne savent pas le faire. Mais ça devient une stratégie. Ça devient vraiment une stratégie, mais ça s'apprend. Oui, mais vous êtes déjà dans le méta quand vous dites ça. Vous êtes déjà sur une réflexion sûre. Alors, et c'est bien cela à quoi on pourrait viser. C'est à cette réflexion que vous êtes en train de mener. Nos élèves ne sont pas, les élèves qu'on connaît ne sont pas du tout dans ce méta. Ils sont.
Moi, vraiment, ce que je veux dire, c'était plutôt une question de présentation, de formulation et d'ordre. Vous montrerez jamais ça à vos élèves, mais quand je vois dès la première ligne le mot danger, je me dis que ça traduit une conception de l'outil qui met le danger en avant. Alors si au contraire on commençait par exemple par dire, ben voilà, on va travailler sur la relation orale-écrit, qu'est-ce qui change, etc. Là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus neutre, parce que le danger fait partie effectivement de l'histoire, c'est un petit peu, je trouve que c'est une position un petit peu moralisatrice et un petit peu, on commence dans l'institution civique si tu veux, et je trouve qu'on aurait plutôt intérêt à commencer par la description, par quelque chose de plus neutre, et puis par interroger le plaisir, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et qu'après, à un moment, on dit, attention, il y a aussi ça, mais que dès la première ligne, je trouve que là, c'est vraiment l'attitude, justement, un peu Télérama, un peu les vieux sages, quoi. Les vieux sages vous disent, attention, les petits, là, vous commencez à avoir des trucs. Bon, il ne faut pas non plus exagérer.
Oui, non, enfin oui, sur le dessinateur, pas vraiment. Mais c'est sur la dimension interpersonnelle, parce que en nous écoutant, beaucoup d'expériences que j'ai menées en atelier d'écriture, en collège, en lycée, en école primaire, etc., me reviennent en tête. Et je me souviens de dispositifs que j'avais mis en place suite à des ateliers d'écriture que moi j'avais suivis, enfin, auxquels j'avais participé et qui étaient organisés par Odette et Michel Neumeyer du GFEN. Et en fait, ils avaient fait quelque chose qui, moi, en tant que, je dirais, écrivain, enfin, m'avait beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, on avait dû écrire des textes, et puis les afficher tous au mur. Et puis on devait écrire un second texte, et la consigne était de reprendre une partie ou quelques phrases de textes qui étaient au mur. Et quand j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre qui lisait son texte, ma phrase, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et donc je l'ai fait plusieurs fois dans des dispositifs de classe, en travaillant sur des petits papiers. Et donc j'ai des jolies boîtes, et les enfants ou les adultes, j'ai beaucoup fait en formation d'enseignant, écrivent à la manière de, enfin, Elisabeth Bramy, vous voyez, les petits plaisirs, les petits délices, etc. Et ils écrivent un petit désir, et on ne sait pas, ils vont le mettre dans la boîte, et puis chacun va le reprendre et lire celui de quelqu'un d'autre. Et donc là, on a un anonymat, mais on a un public, et on sait qui sera le public. Et puis, à partir du petit mot qu'ils ont pêché, ils vont l'enrichir. Et alors là, j'ai d'autres livres, parce qu'en littérature jeunesse, il y en a toute une série, et finalement, j'arrive à du Philippe Delerme. Et il y a une construction, comme ça, très très progressive, et chaque fois, ils retravaillent sur le texte de quelqu'un d'autre, et ils reprennent. Et il se passe vraiment des choses très très intéressantes. Parce que là, on a en même temps la dimension interpersonnelle, et en même temps, donc il y a une mise en danger d'une certaine manière, puisque d'autres vont nous lire, on ne sait pas avec qui on est, on a une formation, on ne connaît pas les autres, etc. Mais elle est quelque part protégée par une forme d'anonymat. Si ce n'est que le dernier texte, ça va être un texte signé. Et donc là, je pense qu'il y a une progression qui est intéressante, et je pense que tout ce autour duquel on tourne là pour l'instant peut se résumer à quelle place donne-t-on à cette dimension interpersonnelle, comment justement instaure-t-on des variations entre le public, le privé, l'anonyme, le signé. Enfin, je pense que là il y a une série de variations dont il faut tenir compte et qu'il faut réfléchir peut-être pour voir. De nouveau, hein, l'enseignant va être le médiateur, et à quel moment est-ce qu'il va juger, on repense à l'improvisation, à l'ordière, hein, à quel moment est-ce qu'il va juger, ça doit être anonyme, ça doit être signé, ça doit être... Enfin, je pense que là, il y a vraiment... on a une gamme d'outils formidables à notre disposition. Voilà, enfin, c'était un petit partage d'expérience. Moi, j'étais frappée, j'ai constaté que quand ça allait tout doucement, qu'il fallait écrire d'abord un mot, puis une phrase, etc., alors ça allait beaucoup mieux. Et puis, de nouveau, si l'enseignant est le médiateur, mais bon, je vous parle d'expériences que j'ai pu mener dans des cadres tout à fait particuliers, et la grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir le faire avec ma classe de 36, hein, c'est ça le problème. J'ai eu l'occasion de vivre des ateliers d'écriture avec des petits groupes de 10, 15, et là, on voit tout de suite les choses qui s'ouvrent, quelles que soient l'origine des enfants, et ils sont prêts à parler de la norme, ils sont prêts parce que l'enseignant est le médiateur, et qu'il y a un enjeu de communication qui fait que bah oui, ça, on va essayer de toiletter le texte, hein, et là ça leur parle, ils sont d'accord et puis ils comprennent. Mais il y a 2 ans aussi, en travaillant avec des étudiants normaliens de chez nous, donc qui avaient plus de 18 ans et qui étaient en grande difficulté, j'ai constaté qu'en fait beaucoup d'entre eux avaient un rapport à la langue comme si c'était un mauvais parent, comme si c'était vraiment un père qui les battait, parce que ils n'ont aucune idée de la logique grammaticale, par exemple. Tout leur semble des exceptions, comme s'il y avait un mauvais génie qui avait fait exprès de faire une langue très compliquée pour leur taper sur les doigts. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là dans leur texte et dans leur réaction. Vraiment, c'était vécu comme un parent maltraitant. Tandis que à partir du moment où on leur expliquait le pourquoi, d'où ça venait, l'histoire de la langue, enfin, je suis pas la première à le dire, hein, là, tout d'un coup, les choses devenaient plus acceptables, et c'était pas quelqu'un qui était là pour nous frapper alors qu'on savait pas ce qu'on avait fait, on croyait avoir bien fait, puis paf, on avait reçu le coup. Et ici, ça se construisait, et stratégie après stratégie, on sentait qu'il se réassurait. Mais voilà, c'était parce que j'ai pu travailler avec des petits groupes. Dès qu'on est dans les grands groupes, c'est très difficile de pas retrouver ce rapport-là. Voilà. Enfin, sauf si certains d'entre vous ont des rapports, enfin des expériences avec des grands groupes où ils ont pu instaurer cette médiation privilégiée, je suis preneuse.
Mais je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises aussi dans la journée, le fait que le dispositif expérimental soit en lui-même générateur de progrès pour le maître ou l'enseignant. Là, par exemple, l'articulation entre les cahiers et les entretiens, vous n'auriez pas été lancé dans une expérience de ce genre, vous n'auriez pas procédé à des entretiens. Il n'y a pas de raison, on ne fait pas d'entretien quand on est enseignant. On n'est pas... Et là, quand même, tout d'un coup, vous vous rendez compte que non seulement c'est un outil pour le chercheur, en quelque sorte, que vous devenez en faisant l'entretien, mais ça devient aussi un outil pour les élèves, pour leur progrès, pour le... Je crois qu'on en parlera demain avec Dominique, mais... Les collègues de Nouvelle-Calédonie qui ont travaillé un petit peu dans cet esprit avec des classes primaires découvrent que tout d'un coup, ça change aussi l'esprit de la classe, ça change l'atmosphère de la classe. Alors, il n'empêche que changer l'atmosphère de la classe, il y a les limites des effectifs, de la disponibilité. Ça se... Oui, il est 4h30, on arrête, on se retrouve demain à 9h pour l'exposé d'Anne-Marie Chartier. J'espère qu'elle n'aura pas d'ennuis avec les moyens de transport.